Bonjour, nous sommes les Dignes Deng Dong et nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur les ondes de fréquence australe pour vous parler du thème de notre choix qui s'intitule « Musique et liberté ».
Alors avant tout, rappelons-nous de l'appel du 18 juin 1940, un appel à la résistance du général de Gaulle à la radio. Ensuite, on va commencer. Nous avons pour habitude de commencer par définir les termes de ce qui compose le titre de notre émission. Alors, nous vous proposons une définition de la musique et une autre de la liberté. Qu'est-ce que la musique ? Source, dictionnaire Robert. C'est l'art de combiner des sons d'après des règles, variables selon les lieux et les époques, d'organiser une durée avec des éléments sonores. Les productions de cet art sont appelées sons et œuvres. C'est aussi un art qui permet à l'homme de s'exprimer par l'intermédiaire des sons. Mais c'est également une science des sons, qui est considérée sous le rapport de la mélodie et du rythme. Définissons à présent la notion de liberté. Source, pensée.fr. La liberté est une faculté d'agir selon sa volonté, en fonction des moyens dont on dispose, sans être entravé par le pouvoir d'autrui. Elle est donc la capacité à se déterminer soi-même à des choix qui dépendent de nous. Ces deux définitions composent la base de ce que ces termes signifient. Il va de soi que ces notions comprennent des subtilités très nombreuses et leur application ont pour les deux un champ très large en ce qui concerne leur pratique.
Nous allons remonter le temps et aller à la rencontre des premiers sons. Musique et préhistoire.
La préhistoire de la musique est l'histoire de la musique dans les cultures préhistoriques. La musique préhistorique commence avec la préhistoire, quelque part à la fin de l'échelle des temps géologiques, et se termine avec l'apparition des musiques de l'Antiquité dans différentes parties du monde. La première forme de musique est probablement le chant.
Les origines de la musique.
Initialement, la musique peut chercher à imiter les bruits de la nature avec une fonction liée à des croyances et des pratiques chamanistes, comme au divertissement, ou encore une fonction pratique, par exemple, leurrer des animaux avec des appos en vue de les chasser. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, la musique et la danse sont souvent associées aux cérémoniales et aux activités sociales. L'analogie ethnologique suggère que la musique préhistorique, comme celle des chasseurs-cueilleurs, est associée à une perception rituelle et surnaturelle du monde. Elle cherche à influencer les êtres humains et leur environnement, et elle est plus particulièrement employée dans des moments critiques pour la subsistance du groupe. Il y a aussi des traditions, par exemple chez les Yukik, des indigènes vivant sur la moitié sud-ouest de la côte de l'Alaska, où le chant sert à transmettre l'histoire collective et les légendes. La structure des chants et poèmes facilitant la mémorisation, le chant s'apparente dans le cas à un moyen mnémotechnique. Musique et chant. Le premier instrument de musique est probablement la voix humaine elle-même. La voix couvre une vaste gamme de dons, de sons, allant de chanter, fredonner et siffler jusqu'au clic, à la toux et au bâillement. Le plus ancien homme de Néandertal connu, présentant la forme moderne de l'os hyoïde a été datée de 60 000 ans, donc antérieure à la plus ancienne flûte paléolithique de quelque de 20 000 ans. Mais la véritable chronologie peut remonter beaucoup plus loin. Le terme os hyoïde vient du grec ancien qui signifie « en forme de U ». C'est un os situé au-dessus du larynx, dans la partie antérieure du cou, en dessous de la langue. Il joue le rôle clé des fonctions telles que la déglutition, la parole et la respiration. Source walterherning.com.
Les êtres humains et les hominidés se sont rencontrés. Peut-être dès que des hominidés ont commencé à utiliser des outils de pierre, le bruit produit par des travaux tels que le martèlement des racines est déjà une forme de rythme. Les hominidés ont donc certainement pu percevoir la musique dans les sons de la nature, tels que le sifflement du vent, le chant des oiseaux, le crépitement de la pluie, le tonnerre, le ruissellement des cascades ou l'écho d'une falaise et produire des rythmes et des mélodies bien avant les premiers instruments de musique. Ils pouvaient utiliser leur voix, chant, bourdonnement, clic, leur corps, frapper des mains, taper des pieds, utiliser les mains ou les joues comme résonateur, des bâtons, frapper un rocher, un arbre creux ou une surface d'eau avec un morceau de bois épais, avec une branche ou avec un os donne différentes sonorités. Un mouvement rapide fait siffler une branche dans l'air. Toutes sortes de pierres, etc.
Il s'agit pour nous d'une liberté créative à l'état pur. Il s'agit parfois d'un jeu. Du reste, on dit encore aujourd'hui jouer de la musique.
Il existe une méthode appelée archéoacoustique qui utilise les techniques acoustiques pour explorer la préhistoire des sons. Ces recherches portent sur les ambiances sonores et les instruments, y compris l'étude de la résonance des roches et des anciens lithophones, sur l'étude acoustique des lieux de culte, tels que tombes et cercles de pierre, sur l'exploration d'instruments préhistoriques à l'aide d'essais acoustiques et sur la reconstitution de paysages sonores par l'archéologie expérimentale.
Mais qu'est-ce qu'un lithophone ?
Il s'agit d'un instrument de percussion formé d'un ensemble de pierres sonores, soit posé à terre, soit suspendu par divers moyens, qui est frappé au moyen de baguettes en bois ou d'autres en pierre. Source Wikipédia. On peut citer dans le domaine de recherche archéoacoustique notamment les recherches du réseau universitaire britannique Acoustics and Music for British Prehistory et l'étude acoustique de trois grottes ariégeoises, grotte du Portel, grotte de Niau, grotte de Fontanay. Cette étude a été menée par le musicologue Igor Reznikov et le préhistorien Michel Devoy en 1988.
De plus, certaines draperies et colonnes de calcite sonnent quand on les frappe. Ces formations de calcite ont une qualité sonore et un son cristallin qui les rapproche des lithophones. Comme le son varie d'un endroit à l'autre sur les voiles de calcite, on peut produire des accords en frappant plusieurs endroits. C'est cependant la rythmique qui donne le jeu de ces lithophones naturels. Des traces de percussion allant jusqu'à entailler ou casser la calcite subsistent dans plusieurs grottes en Ariège, dans le Lot, dans les Bouches-du-Rhône, etc. Mais il suffit d'une légère percussion du bout des doigts pour jouer sur les draperies les plus fines, par exemple dans le réseau clastre de la grotte de Niau. Cependant, malgré les apports certains de l'archéologie à l'histoire de la musique, il importe de souligner les limites dues à la conservation différentielle des matériaux. Les matériaux dégradables, comme les végétaux, le bois, l'écorce, le cuir et même la corne, disparaissent, tandis que les bois de cervidés se conservent assez bien. L'os et l'ivoire se conservent mieux et ce sont bien sûr les pierres dures qui se conservent le plus longtemps.
Écoutons à présent une musique qui provient du site IA Familitium qui s'appelle « Le chant de la préhistoire ».
Si longtemps, un monde sauvage sans le moindre chemin. L'australopithèque sur deux pieds marchant lent. Cherchait sa place, un petit singe en devin. Homo habilis, les mains qui se déploient. Invente l'outil, le silex la première fois. Un nouveau regard, un cerveau qui s'éveille. Le début de l'homme, une lueur sans pareil. De la savane au la terre des siens, il apprivoise le feu, ce merveilleux émoi. Chasse en groupe, nous ses premiers liens. Le grand Néandertal, les glaciers pour maison. Un corps robuste, fort contre la.
la saison. Il enterre ses morts à des rituels secrets. Un cœur déjà sensible à des destins funestes.
De la savane aux grottes, un grand voyage. Le temps s'écoule.
Bien sans fin, le penseur moderne, le dernier né d'une lignée éternelle. Il arrive en Afrique sans aucune gêne et se déploie par tout le monde et sa querelle.
Il peint Lascaux, dessine le bison. L'art est un souffle, une profonde raison. Il invente l'aiguille puis le harpon, la hache. L'esprit s'aiguise, l'ingéniosité se lâche.
De la savane au crottin un grand voyage. Le temps s'écoule, la mémoire d'un âge. Un feu qui danse, un trait sur la paroi. C'est la préhistoire qui chante en nous sa loi.
Jusqu'à ce que le bronze et le fer arrivent, laissant derrière nous ces grandes archives. Mais dans nos gènes, un écho lointain résonne, le cri de l'ancêtre. La première personne.
Je tourne à bout.
La musique avant les premiers instruments.
Les percussions. Taper des pieds produit une suite de percussions sans nécessité de coordination motrice particulière, donc possible très tôt dans l'évolution du genre humain, voire chez des hominidés plus anciens tels que les australopithèques. Après l'apparition du genre Homo, Homo habilis progresse en coordination et en dextérité et peut produire intentionnellement ou non, des suites de percussions en frappant des objets entre eux, non intentionnellement par exemple quand il utilisait des outils ou dans la danse, et intentionnellement peut-être pour produire des sons et du rythme. Le chant. En ce qui concerne le chant et la voix, les capacités vocales chez Homo habilis se limitent sans doute à des sons brefs dans une faible gamme de hauteur. Tels quels, ces sons permettent déjà de se signaler, donner l'alerte, marquer son territoire, etc., mais aussi d'exprimer des émotions et commencer à communiquer. Lorsque Homo ergaster s'est redressé, il a connu des capacités vocales plus étendues, associées à la morphologie de l'oreille interne et à la position du larynx, ce qui correspond à la position bipède redressée qui faisait défaut à Homo habilis. C'est à l'époque du dernier ancêtre commun d'Homo Neanderthalensis et d'Homo sapiens que les humains acquièrent l'innervation vertébrale et thoracique qui permet un contrôle fin de l'expiration et par conséquent de longues vocalisations ainsi que la capacité de gérer des séquences complexes. Enfin, il est probable que des percussions rythmiques accompagnent les vocalisations complexes du chant. Ils sont les premières expériences musicales bien avant l'instrumentation mélodique.
Les premiers instruments de musique.
En ce qui concerne les instruments de musique, sous réserve de la difficulté à identifier divers objets utilisables comme les instruments de percussion, le plus ancien instrument de musique attesté par l'archéologie est une flûte en os d'oiseau trouvée en Souabe, qui est une région du sud-ouest de l'Allemagne et datée de 40 000 à 43 000 ans. En 2008, des archéologues ont découvert dans la grotte de Holfelst une flûte à cinq trous avec un biseau en V, fabriqué à partir d'un os d'aile de vautour. Daté d'au moins 35 000 ans, c'est l'un des instruments similaires trouvés dans la région et l'un des plus anciens instruments de musique confirmés. En 1996, des flûtes en os de cygne ont été découvertes et datées de 37 000 ans. En France, la phalange sifflante de la grotte d'Aurignac en Haute-Garonne est le premier sifflet paléolithique découvert et reconnu comme tel par Édouard Larté en 1860. Ce type de sifflet doit son nom au fait qu'il est réalisé dans une phalange de renne. Il produit des sons de hauteur et d'intensité variés et permet des modulations. Parmi les hypothèses sur l'origine de ce sifflet, Michel Auvois, préhistorien membre de l'Institut de paléontologie humaine de Paris et de l'Instituto Italiano di Paleontologia Umana de Rome, auteur de travaux sur l'archéoacoustique, remarque que la marche naturelle du renne s'accompagne d'une sorte de roulement de castagnettes engendré par les tendons, et que cela a pu motiver une préférence pour les os de renne au moment de façonner des phalanges sifflantes. C'est cependant surtout l'interdépendance homme-loup-renne qu'il privilégie comme facteur de découverte du sifflet. Sachant que le loup attaque les cervidés en leur mordant les pattes arrière, avant de les déséquilibrer, on trouve souvent des phalanges de renne avec des traces de morsures et parfois une ouverture de la cavité interne naturelle de cet os. L'homme a donc pu sélectionner les premiers sifflets parmi les os mordus et perforés par le loup, en choisissant les phalanges qui sifflaient. Puis il aurait perfectionné ses ébauches, l'irrégularité de la perforation n'étant pas gênante pour la qualité du son.
Dans la musique du monde.
Certains instruments restent joués sans discontinuer depuis la préhistoire. Par exemple, le didgeridoo du nord de l'Australie, les rhombes d'Amazonie, d'Amérique du Nord et d'Afrique, ainsi que certains churungas australiens, lames de bois de forme oblongue, sans oublier la conque, coquillage, qui est un instrument à vent.
Abordons à présent différents registres musicaux qui ont accompagné l'évolution de l'être humain.
La musique est plurielle et est composée par les hommes depuis très longtemps. Et même si de nos jours, l'intelligence artificielle est capable d'en créer, elle s'inspire et puise dans l'immense bibliothèque musicale créée par l'homme. Peut-on citer différents registres comme la musique religieuse, qui accompagne tous les croyants du monde dans leurs prières, leurs créations, leurs rituels, leurs cérémonies, etc. Mais également la musique servant un registre militaire, comme l'hymne national, qui sert à fédérer et à identifier une notion lors de déplacements, lors de représentations militaires et même sportives. Et aussi les fanfares qui accompagnent les défilés et servent aussi à marcher au pas. La musique de la résistance, sous toutes ses formes, comme le chant des partisans ou celui des femmes italiennes employées dans les rizières au début du XXe siècle et qui sont à l'origine de la chanson Bella Ciao, avant celle-ci, soit reprise que par la résistance pendant la guerre. La musique de la consommation, avec les publicités, les musiques qui incitent à consommer, notamment dans les supermarchés, au cinéma, à la télévision, à la radio, etc. La musique qui relie, qui permet une apparence qui correspond à une tranche d'âge, à un mouvement particulier, à un mode, à une époque, etc. La musique est directement reliée à la culture des peuples et parfois aux traditions spirituelles culturelles. Il y a aussi la musique qui soigne, la musique thérapeutique qui détend, qui endort, qui apaise, on retrouve la musicothérapie dans ce registre, la sonothérapie, etc. Le fait d'écouter de la musique et de pratiquer un instrument permet d'améliorer la capacité à communiquer en facilitant la connexion entre les neurones. Par exemple, elle aide les enfants dans leur capacité à s'exprimer, à formuler leurs idées et à acquérir une bonne diction. Liée à la communication, la musique est aussi bénéfique pour la mémoire. Une étude précise que les circuits cérébraux impliqués dans l'improvisation musicale améliorent la capacité de mémorisation et apportent une connectivité plus étendue des neurones. Source, les bienfaits de la musique, dièse 1, la mémoire et la communication.
Dans certains blocs opératoires, on passe de la musique douce pour détendre l'atmosphère et aider à la concentration des soignants et détendre les patients. Selon l'article du lundi 3 juin 2019, écrit par M. Victor Stribault-Lapierre. La musique est de plus en plus utilisée comme thérapie, côté patient. Or voici qu'on découvre également ses vertus pour les personnels soignants. Les chirurgiens, par exemple, sont nombreux à diffuser leurs morceaux préférés au bloc. Ceci afin de se concentrer et de créer un climat détendu. Source radiofrance.fr. En néonatalité, la musique est parfois présente et également en salle d'accouchement.
Écoutons à présent Miles Davis intitulé « All Was Blues ».
En ce qui concerne les animaux et les plantes, certaines structures d'élevage font écouter de la musique classique aux vaches laitières pour qu'elles produisent plus. D'après une étude réalisée en 2001 par l'Université de Leicester, Royaume-Uni, la musique calme améliore la productivité des vaches laitières, probablement parce qu'elle diminue le stress des animaux. En effet, le stress inhibe la sécrétion d'ocytocine, hormone nécessaire à l'éjection du lait. Source www.webagri.fr. En ce qui concerne les plantes, une étude à long terme menée par le biologiste Stefano Mancuso de l'Université de Florence a révélé que les plantes exposées à la musique classique pendant 10 ans développaient des feuilles plus grandes et étaient plus fructueuses. Ces vignes produisaient non seulement plus de raisins, mais aussi le vin était plus aromatique. Source HESI, musique et croissance des plantes. Enfin que ce soit, la musique classique, la musique folklorique, le rock and roll, le blues, le rap, le slam, etc. Toutes ces musiques parlent à ceux qui les écoutent et à ceux qui les créent. La musique est faite pour être écoutée, vécue, dansée. C'est un art vivant et en continuelle évolution selon les époques, les courants, les modes.
Écoutons maintenant le groupe Queen et le titre I want to break free. Nous souhaitons aborder à présent de quelle façon la musique a libéré la parole et les comportements des êtres humains. La musique comme chemin d'émancipation.
La musique n'est pas seulement un art, c'est une forme de transformation, un moyen d'accéder à soi, de se réinventer et de s'affirmer. Depuis toujours, elle accompagne les êtres humains dans leur quête de liberté intérieure. Elle donne forme à nos émotions les plus intimes et à nos identités en devenir. Aujourd'hui plus que jamais, la musique apparaît comme un outil de subjectivation, un espace où chacun peut créer sa propre narration, affirmer sa singularité et revendiquer son histoire.
La musique, c'est un miroir intérieur qui révèle l'individu.
L'un des pouvoirs le plus fascinant de la musique est sa capacité à nous reconnecter à nous-mêmes. Elle agit comme un miroir émotionnel dans la mesure où elle révèle ce que nous n'arrivons pas à dire et structure ce que nous n'arrivons pas à comprendre.
Le geste musical, une manière d'accéder à soi.
L'émancipation passe aussi par le corps, par la manière dont il s'agite au rythme et se déploie dans l'espace. Le geste musical peut nous permettre de nous reconnecter à nos couches profondes et constituer une porte d'entrée à l'acceptation et la compréhension de soi.
La musique comme affirmation politique.
Au-delà d'une échelle purement individuelle, la musique se part aussi d'une dimension éminemment politique. Elle crée des communautés, unifie des voix dispersées et donne le lieu d'existence aux identités opprimées ou invisibilisées. Pour de nombreuses populations marginalisées, la musique est un refuge, mais aussi une armure, une manière de dire, en somme, nous sommes là, nous existons. Accepter sa différence devient alors un acte politique, une manière de résister aux normes oppressives qui voudraient uniformiser les corps et les identités.
Mais en quoi et comment la musique a-t-elle permis de libérer l'esprit des masses ?
À l'époque de l'esclavage, aux États-Unis, un esclave chantait la chanson « Steal Away » lorsqu'il prévoyait de s'évader prochainement. La chanson « Sweet Chariot » était chantée pour annoncer aux esclaves leur évasion imminente. C'était la chanson préférée d'Harriet Tubman, militante anti-esclavagiste et abolitionniste américaine, née en 1822 et décédée le 10 mars 1913. Elle a été également féministe et militante des droits civiques. La chanson « Follow the Drinking Gourd » servait, entre autres, à rappeler aux esclaves les indices qui leur permettraient de trouver leur chemin vers le nord. Source Fondation pour la mémoire de l'esclavage.
Écoutons à présent cette chanson « Follow the Drinking Gourd ».
Comes back when the first quail calls. Follow the drinking gourd, for the old man is waiting for. Carry you to freedom. Follow the drinking gourd. Well, a riverbank is a mighty good road. Dead trees show.
Drinking.
On ne peut qu'évoquer à présent l'histoire du blues, étroitement liée à la notion de dépression, de ségrégation, de désespoir.
Le blues, avec ses mélodies poignantes et ses paroles chargées d'émotions, n'est pas seulement un genre musical. C'est une expression profonde de l'expérience humaine. Né dans le sud des États-Unis au cours du 19e siècle, le blues a joué un rôle crucial dans le développement de la musique moderne. Le blues trouve ses racines dans les chants de travail et les spirituals chantés par les esclaves afro-américains dans les plantations du sud des États-Unis. Ces chants exprimaient la douleur, la lutte, mais aussi l'espoir et la résilience. Après l'abolition de l'esclavage, ces mélodies ont évolué pour devenir le blues, caractérisé par ses structures musicales répétitives et ses paroles évocatrices. Le delta du Mississippi est souvent cité comme le berceau du blues. Des artistes comme Charlie Patton, Robert Johnson et Son House ont popularisé ce style dans les années 1920 et 1930. Leur musique principalement acoustique était intime et émotionnellement intense, évoquant des thèmes de désespoir, d'amour perdu et de défi face à l'adversité. Dans les années 1940 et 1950, le blues a migré vers le nord, en particulier à Chicago et à Détroit, où il a été électrifié par des artistes comme Muddy Waters et Howlin' Wolf. Cette transition vers un son plus éclectique a donné naissance au Chicago Blues, un style qui a influencé de nombreux genres musicaux, notamment le rock'n'roll. Le blues a également joué un rôle dans le mouvement des droits civiques. Des chanteurs comme B.B. King et Nina Simone ont utilisé leur musique pour exprimer la lutte des Afro-Américains pour l'égalité, la justice et la liberté. Leurs chansons ont servi de bande sonore à un mouvement social et culturel majeur. Le blues a influencé presque tous les genres de musique moderne, du rock au jazz en passant par la soul et la R&B. Des artistes comme Eric Clapton, les Rolling Stones ou Jimi Hendrix ont tous puisé dans le blues pour créer leur style unique. Aujourd'hui, le blues continue d'inspirer les musiciens du monde entier. L'histoire du blues est celle d'une musique qui a transcendé ses racines douloureuses pour devenir un symbole universel de résilience et d'expression personnelle. Plus qu'un genre musical, le blues est un témoignage de la capacité de l'art à refléter et à influencer la société. Il reste un élément vital de l'héritage culturel mondial, continuant de toucher et d'inspirer des générations de musiciens et d'amateurs de musique.
Et qu'en est-il du jazz ?
Le blues est le papa historique du jazz. Il est né dans un contexte pas véritablement folichon dans le sud des USA à l'époque de l'esclavage des populations afro-américaines. C'est un art vocal au tout début, intuitif, qui naît tout de même au 19e siècle. Il se chantait sur une pentatonique, une gamme à 5 notes, spéciale, une majeure 7e, 7e diminuée, à laquelle les chanteurs ajoutaient spontanément une note bien spécifique, la quarte augmentée. Cette fameuse note étrange est la blues note. C'est ce qui donne cette patine au blues. Malgré tout, le blues est une musique qui reste une musique spontanée, et donc une musique improvisée avec des chorus, des impros après le thème. Mais le blues s'est formalisé après-guerre selon une grille assez stricte, en 8, 12 ou 16 mesures, surtout 12, qui reprend un schéma de base. Cependant, malgré cette formalisation classique, le blues n'est pas mort ni resté enterré une fois le jazz naissant. Il a continué son chemin, toujours formalisé, mais avec un son bien différent selon ses interprètes. Source jazzblog.borisfoucault.com.
Évoquons une autre forme de chant libérateur avec le chant des partisans.
Ce chant, aussi appelé chant de la libération, est inspiré d'un air populaire russe, les premières paroles ayant été écrites en russe par Anna Marty. Celles-ci ont été ensuite traduites et modifiées par Maurice Druon et Joseph Kessel. Les paroles définitives sont publiées dans le premier numéro des cahiers de la Libération, dont l'édition originale porte la mention suivante. Ce volume a été achevé d'imprimer sous l'occupation nazie le 25 septembre 1943. La musique est interprétée par une voix de femme, des tambours ainsi que des cuivres de fanfare. L'utilisation des tambours évoque une marche militaire. Ce modèle de chant fonctionne selon le principe de l'alternance en A-A-A-B, tout comme les rimes. Ce chant atteste de la puissance des mots et de la nécessité de préserver l'existence d'une culture libre permettant de s'opposer à toute forme d'inégalité et de barbarie, caractéristique du règne de Vichy. Le manuscrit original de cette œuvre a été déclaré monument historique en 2006. Ce chant est donc un élément important du patrimoine français de notre histoire.
La musique, une force d'avenir.
La musique n'est pas qu'un simple divertissement, elle est aussi à plus d'un titre un outil d'émancipation et un moteur de transformation sociale. Elle accompagne les ruptures, libère les révoltes intérieures et offre un espace où les identités peuvent enfin s'épanouir pleinement.
Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous remercions Fréquence Mistral et Odile Frison de nous accueillir et de nous permettre de réaliser ces émissions en direct. Nous souhaitons une bonne journée à tous les auditeurs et un très bel été. Nous retrouverons en octobre prochain. Au revoir à tous.
Non, celle-ci pour mes frères et sœurs qui savent qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une chose à faire. C'est l'unité. Watch me now. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Marchons car unis, nul ne nous fera taire. La voix des bas-fonds passe au-delà des frontières. Le son résonne du paradis jusqu'aux enfers. Oh, oh, oh. Ayons les pieds sur terre et surtout l'esprit ouvert. La route tourne pour tous, de pasteur au gangster. La route est longue, donc l'union salutaire. Oh, 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 oh. Dieu sait. Les premiers seront derniers. Place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas de faille. Laissons place à l'unité. Devant nous se lève un jour nouveau. Oh, oh. Et si l'enjeu est de taille, sache que nous n'aurons pas, non, nous n'aurons pas de faille. Jusqu'à la fin, riche ou dans la misère, soudé par la passion, quelles que soient les galères. Ici chacun est le gardien de son frère. Oh, oh, oh. Marchons, levons la tête, tout sera plus clair. Demain sera nôtre, à nous de changer d'air. L'union est l'arme du prochain millénaire. La la merci, yeah. Pour le futur et pour des jours plus clairs, sachant que des ténèbres jaillira la lumière. Laisse-moi prêcher l'unité pour nos frères.